Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre de l'été, merci de nous retrouver. Notre portrait de voyageur est aujourd'hui celui de Marco Polo, 1254-1324. L'une des belles choses chez Marco Polo est son amour de l'incertitude, ou du moins son acceptation. Arrivant quelque part, il ne sait pas pour combien de temps il s'y trouve. Selon son agrément ou la nécessité, il peut rester dans un caravansérail pendant une nuit ou un mois, voire un an. Quand il prend la route, c'est pour une durée inconnue à travers des pays dont il ne sait rien. Et en chemin, il prend des notes, mais sans but particulier, semble-t-il. L'incertitude est vécue comme une chance. Il faut dire qu'il a grandi dans l'incertitude. À sa naissance, son père était déjà parti en Chine avec son oncle. Il n'avait aucune idée qu'il les rencontrerait pour la première fois âgés de 15 ans et voyagerait ensuite à leur côté. Un livre raconte tout cela, c'est Le Devisement du Monde. Il a été écrit à quatre mains dans une prison de Gênes. Et c'est par là que commence cette émission de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Anne Sécheret et diffusée une première fois le 6 octobre 2012.
Ici commence l'introduction du livre qui est appelé « La description du monde ». Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des diverses régions du monde, et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire. Car vous y trouverez toutes les grandissimes merveilles et diversités de la grande et la petite Arménie, de la Perse, de la Turquie, des Tartares et de l'Inde, et de maintes autres provinces de l'Asie moyenne et d'une partie de l'Europe, quand on marche à la rencontre du vent grec, du Levant et de la Tramontane. C'est ainsi que notre livre vous les comptera, en clair et bon ordre, tout comme Messire Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, les décrit parce qu'il les a vus de ses propres yeux.
Il y a une tonalité particulière, effectivement, au livre de Marco Polo, qui fait qu'on a pu en parler, je reprends à Michel Guéret-Laferté une expression, d'un itinéraire impersonnel. C'est lié à la facture, en fait, de cet ouvrage qui a été écrit par Rusticello de Pise, sous la dictée, dit-on, de Marco Polo. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'autres récits de voyage, où les voyageurs prennent eux-mêmes la plume pour écrire, éventuellement en latin, beaucoup plus rarement en français, Marco Polo a dicté à Rusticello de Pise, qu'il a rencontré en prison à Gênes en 1298, ses récits de voyage.
Rusticello est un homme qui est connu par ailleurs. Nous avons de lui une compilation arthurienne. On l'appelle compilation parce qu'il n'y a pas de titre. C'est un mélange où il y a des récits écrits par lui, des morceaux du Tristan en prose qu'il a utilisé, des morceaux d'un autre roman de chevalerie arthurien, Guiron le Courtois.
Donc il est connu comme écrivain.
Oui, il est connu comme écrivain, et vraisemblablement avant de s'occuper de la description du monde de Marco Polo. Et puis, pour une raison qui nous échappe, il s'est trouvé prisonnier à Gênes.
Rusticello a envie d'exagérer. C'est un homme qui avait écrit beaucoup de romans un peu faciles. Il écrivait d'ailleurs en français du XIIIe siècle, des romans un peu à l'eau de rose, mais avec un sens de l'exagération. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a exagération, cela doit provenir de Rusticello. En revanche, on sent, mais là, à nouveau, ce n'est pas extrêmement scientifique ce que je dis, c'est aussi beaucoup plus intuitif. C'est une relation humaine que l'on peut établir avec un personnage. Eh bien, j'ai senti quand même un homme simple et beaucoup moins baratineur que ne l'était Rusticello.
C'est impossible de faire le départ entre ce que l'on devrait donner à l'un ou à l'autre. Une chose est certaine, c'est que quand on parle du texte de Marco Polo et que l'on dit, par exemple, en prenant l'un des titres disponibles, Le Devisement du Monde de Marco Polo, on devrait dire Le Devisement du Monde de Marco Polo et de Rusticello de Pise.
Le Devisement du Monde a commencé à être écrit à Gênes. Il n'a pas été continuer et achever à Gênes, parce qu'à la fin, on voit des descriptions de combats entre les Mongols en Asie centrale, dans la version franco-italienne seulement. qui sont postérieures à 1298.
Donc ça veut dire qu'il l'a continué lui-même ou
Lui-même ou avec Rustichello. Jusqu'en 1299. Et puis pour connaître des combats qui se sont passés en 1299, il a fallu une année ou deux. Donc je considère qu'on peut être sûr que ça a été terminé vers 1300. Mais ça n'a pas été terminé, en fait, puisqu'il n'y a pas de conclusion. La plume s'arrête comme cela, brusquement. C'est très curieux comme composition. Nous ne pouvons pas expliquer cela.
On ne peut pas dire non plus qu'à un moment donné, on observe une rupture. On a tout au long de l'histoire, du moins c'est l'impression que j'ai eue en lisant cet ouvrage, cette même écriture souvent neutre, souvent sèche, souvent accumulative, mais avec ici et là des descriptions, des anecdotes. La licorne ne fait pas de mal avec sa corne, mais avec sa langue, car elle a sur sa langue des épines très longues. Elle a la tête d'un sanglier et elle porte sa tête toujours dirigée vers le sol. Elle séjourne volontiers dans les lacs et les bourbiers. C'est une bête très laide. Elle n'est pas telle qu'on la capture au sein d'une jeune fille vierge, comme nous le disons chez nous. C'est tout le contraire.
C'est le document historique parfait pour nous dire comment pensait un homme de cette époque, du XIIIe siècle. C'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce qui est réel est.
Pierre Ducrozet, écrivain.
Donc, c'est-à-dire les légendes sont mises au même plan que la géographie. Ils ne doutent pas des choses comme nous, on en doute en bon rationnel qu'on est. Donc ça nous renseigne sur la mentalité des hommes de cette époque. Et cette notion de vérité et de mensonge qui en fait certainement une œuvre littéraire, puisque on sait que c'est une des notions clés de la littérature, où se situe la vérité, où se situe le mensonge. Et Marco Polo est déjà là-dedans, sans vouloir être un romancier ni quoi que ce soit, parce qu'il... Mais il n'en est pas là, mais il met cette question au cœur de son livre, donc c'est passionnant ça. Les hommes à tête de chien, bon, ils ne les voient pas, mais comme ils ne les voient pas, et qu'ils ont entendu parler, eh bien, a priori, pour lui, ça existe. Alors que nous, a priori, ça n'existe pas. Après, il faut qu'on aille voir, vérifier, si peut-être on les voit. Non, lui, l'a priori est inverse.
Quel est le contexte, un peu, Olivier Germain-Thomas, de cette rivalité, cette guerre entre Gênes et Venise au XIIIe siècle, au moment, alors ça dure très longtemps, mais du temps de la vie de Marco Polo?
Deux cités commerçantes qui ont des comptoirs et qui n'arrêtent pas de se combattre, comme il y a aussi un combat entre Venise et Byzance, comme il y a un combat partout, dans tous les moments historiques, entre des villes qui ont les mêmes activités. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça nous semble bizarre aujourd'hui, parce que maintenant ces deux villes font partie d'un même ensemble, qu'on appelle l'Italie. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Italie, il y avait simplement des cités très riches, l'une et l'autre, et qui menaient des batailles navales.
Et on a une idée de la manière dont Marco Polo a été pris par les Génois, ou ça c'est totalement, totalement dans le flou?
Non, on n'en sait rien, on ne sait même pas pourquoi il a été pris. Là-dessus, les affaires sont floues. Ce que l'on sait, c'est que ses conditions étaient de bonnes conditions, et que justement, il aurait fait venir les carnets qui étaient restés à Venise, il les aurait fait venir à Gênes. Et qu'à Gênes, s'il a pu parler si longtemps avec Rustichello da Pisa, qui lui était prisonnier depuis fort longtemps, s'il a pu parler, c'est qu'ils étaient bien installés. Ce n'était pas un trou de basse-faux, c'était probablement un appartement, peut-être même avec des serviteurs. C'était ce qui se passait, vous savez, quand on prenait un membre d'une grande famille, on n'allait pas le traiter comme, hélas, on allait traiter des galériens.
La 10 bonnes journées du Basatien, vers le midi, est une province nommée Pascale, où ils ont un langage à eux. Les gens sont idolâtres, qui adorent les idoles, et ils sont gens bruns. Ils savent beaucoup d'enchantements et d'arts diaboliques, et le temps passe à invoquer les démons. Les hommes portent à leurs oreilles des anneaux et des boucles d'or, d'argent, de perles et de pierreries selon leurs moyens, et travaillent très habilement. Ils sont gaillards, très malveillants, et artificieux, cruellement raffinés dans leurs coutumes. Leur manger n'est que riz et chair avec des épices. Y règne le vice de sensualité, de telle manière que je n'en veux rien dire. Oui, laissons tout cela. Et comptons d'une autre province qui en est, vers le Sirocco, à cette journée, et qui a nom chez Semir.
Au fond, s'il n'y avait pas eu de bataille entre Gênes et Venise, de rivalité entre ces deux villes, il n'y aurait pas eu de Marco Polo.
Alors, on n'en sait rien, parce qu'il n'est pas impossible, c'est une hypothèse que je ne lance que comme une hypothèse, que Marco Polo ait écrit d'autres textes qui ont disparu. D'abord, il est dit qu'il est revenu avec toute une série de carnets. Ces carnets n'ont pas été volés. Il a été dépouillé à Trébizonde, mais pas de ses carnets. Donc ces carnets ont disparu, mais ils existaient. Donc il aurait pu éventuellement, sans Rusticello da Pisa, faire néanmoins un livre. Et c'est quand même très curieux que la première version de ce voyage soit écrite en français. Tant mieux pour nous, bravo, j'en suis très fier.
Une espèce de français un peu italianisant.
Un petit peu, oui. Mais j'imagine quand même, Marco Polo parlait plusieurs langues, mais j'imagine quand même que rentrant à Venise, étant accueilli comme une sorte de héros, voilà, j'ai vu ce que vous n'avez pas vu, il a dû prendre des notes quelque part.
Donc ces carnets là, auxquels vous faites référence, on ne sait pas du tout de quoi ils parlent.
Non, mais on imagine que les faits précis qui sont donnés, car quelquefois il y a des faits extrêmement précis sur la localisation d'une ville, sur la taille des murailles d'une ville, sur la production des villes. Il ne pouvait pas non plus tout avoir en mémoire sur la quantité considérable de villes qu'il avait traversées. Donc il avait probablement marqué sur ses carnets pour éventuellement être utile à ses compatriotes, car n'oublions pas quand même que Venise est avant tout une ville qui fait du commerce. Donc si vous voulez faire du commerce avec l'empire de Kublai Khan, sachez que dans telle ville, il y a telle production de tissus, telle production d'épices, que là au contraire, vous allez trouver telle sorte d'animaux. Donc on peut supposer, là ce sont des suppositions, qu'il est revenu avec ces informations qui étaient très utiles à ses compatriotes. Et puis quand on a vécu une aventure comme il l'a vécu, et qu'on est un lettré, ce qu'il était quand même malgré tout, d'une bonne famille vénitienne, on a envie de laisser une trace. Donc je pars de l'hypothèse qu'avant le devisement du monde, il y a des textes qui ont disparu.
Et alors être marchand à cette époque-là, à Venise, comme le sont donc le père de Marco Polo et son oncle, qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des marchands qui sont déjà,
Daniel Jamraoui,
j'allais dire, dans la sphère supérieure, ils sont plutôt dans le négoce. Parce qu'en fait, le frère aîné, dont on ne parle pas, qui est Marco l'Ancien ou Marco le Vieux, hein, Marco Vecchio, a ouvert deux comptoirs, l'un à Constantinople et l'autre en Petite Arménie. Et donc ce sont des marchands déjà qui sont sortis très très loin de la ville. Alors la ville est déjà riche, elle est déjà tournée vers le commerce et on sait que toute une partie de la ville de Constantinople a été occupée par des Vénitiens à cette époque-là qui commercent avec la Perse, avec le Moyen-Orient et qui ont très très envie de s'ouvrir depuis un moment déjà à l'Extrême-Orient.
Donc ils vivent entre Venise, Souda, oui, Constantinople, leur comptoir.
Absolument.
Ils achètent quoi ? Alors de la soie évidemment ?
Oui, des épices et des pierreries. Et les pierreries, en fait les pierres précieuses dont l'Occident est très très demandeur, c'est une nouveauté dans le commerce avec l'Extrême-Orient. On dit que la famille Polo fait partie de ces familles, de ces commerçants qui vont montrer aussi, qui vont montrer à l'Extrême-Orient l'importance de ces pierres pour eux.
Et alors nous avons des énumérations de pierres précieuses dans le devisement du monde,
Philippe Ménard,
et d'autre part des soieries. Et puis aussi des parfums, éventuellement le musc, ce parfum si fort, le bois de santal, l'aloès.
Est-ce que ça signifie que ce voyage est absolument exceptionnel, que peu de gens le font ?
Peu de gens le faisaient à l'époque de Marco Polo. Et pendant toute une période, ce voyage sera encore plus difficile du fait justement de l'islamisation de toute la zone géographique entre l'Europe et la Méditerranée et l'Empire chinois. 4 ans de voyage, 4 ans de voyage, un risque constant d'être tué par des pillards, par le froid, par la chaleur, par la faim, par la soif. C'est une aventure absolument époustouflante.
Ils sont restés 2 ans à Boukhara, ils sont passés à Samarcande et ils se sont agrégés à une ambassade qui allait vers le grand Khan, Kubilai, comme nous disons en français. Comme vous le savez, on écrit K-H et on prononce R avec une laryngale en Mongolie et en Chine.
Alors, qui est ce Kubilai exactement?
Un personnage extraordinaire qui est mort en 1294, qui a eu un règne long. Il est mort presque à 70 ans. Et qui a été un chef de guerre. Ils sont tous des chefs de guerre, les Mongols. Il a conquis le sud de la Chine par ses armées. Et il a fait lui-même quelques expéditions. L'une d'entre elles est comptée par Marco Polo contre un rebelle, Nayan. Mais c'était aussi un grand administrateur, un très habile chef par rapport à la Chine. C'était une puissance d'occupation.
Et donc ce Kubilai entend dire que des marchands importants sont dans la région, il les fait venir, comment ça se passe
donc,
exactement?
Donc ce n'est pas Kubilai qui les a fait venir, le chef de cette ambassade leur a dit « si vous voulez nous suivre, nous allons voir le grand Khan ». Alors ce n'est pas encore à Pékin, parce que la nouvelle capitale n'avait pas été édifiée dans ces années 1260 et suivantes. Mais il devait être à Karakorum, qui était la capitale normale du grand Khan, donc en Mongolie. Le chef de la caravane leur a dit, il n'a jamais vu d'Occidentaux, c'était certainement inexact. Donc il sera très content de vous voir. Alors ils sont partis.
Alors il faut savoir qu'il y a 2 grands voyages, l'un avec Marco Polo et l'autre sans Marco Polo, oui. Daniel James Raoul.
Oui, c'est ça. Le père et l'oncle de Marco Polo partent une première fois, donc avant la naissance de Marco Polo, vers 1254, et ils vont rentrer très tardivement en 1269. Donc Marco découvrira son père alors qu'il a environ 15 ans. Alors, ils ont été chargés d'une mission par Kubilai, le grand Khan, qui demande à ce que le pape lui envoie notamment 100 savants et théologiens qui pourront exposer leurs arguments et faire connaître leur religion, leur science.
C'est-à-dire qu'ils étaient partis pour aller grosso modo vers la Perse, pour élargir un peu leur commerce qui se faisait avec la mer Noire. Donc ils ont voulu aller un peu plus loin. Et ils ont été pris par des événements politiques et des bouleversements. Ensuite, un envoyé de l'empereur les voit et dit « Ah, mais l'empereur serait ravi de rencontrer des Occidentaux. Allez, venez avec moi. » Donc ils n'ont pas pu dire non. Donc je pense qu'il avait des arguments peut-être assez vigoureux. Et ils finissent par arriver à la cour de l'empereur. Et à ce moment-là, l'empereur leur donne une mission auprès du pape pour aller effectivement chercher des éléments pour sa propre mère, et aussi une mission diplomatique auprès du pape pour éventuellement créer une sorte d'alliance.
Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être revenir déjà sur la teneur exacte de la mission que Kubilai Khan confie au frère Polo. De quoi s'agit-il exactement?
Il y avait un double but. Il y avait le but de satisfaire sa mère et de rapporter de l'huile du Saint-Sépulcre pour sa mère qui était chrétienne. Et il y a un autre but diplomatique, ou religieux, comme on veut, c'est-à-dire que les tribus mongoles étaient chamaniques. Ils croyaient profondément aux esprits, les esprits des morts, les esprits de la nature. Dans son immense empire, il y avait bien sûr les Chinois qui étaient avant tout confucéens, certains étaient bouddhistes, l'hindouisme était à ses portes avec l'Inde, l'islam était arrivé près de la cour, il y avait aussi quelques médecins juifs. Donc il y avait une sorte d'incertitude pour l'empereur et pour les principaux dirigeants de cet empire dans le choix de la religion. Et est-ce un piège ou pas? Je n'en sais rien. Kubilai fait croire qu'il serait prêt à devenir chrétien.
C'est assez difficile à croire.
Pas tant que ça. Pas tant que ça par rapport à l'époque, parce que dans cette époque, et Kubilai le dit à un moment donné, on choisit la religion de celui qui semble être le plus fort. Ah bon, en Occident, vous avez quand même une économie qui fonctionne bien, vous avez des pouvoirs, envoyez-moi des lettrés et des gens extrêmement compétents. Et si je m'aperçois que ces gens compétents sont supérieurs aux savants des autres religions, je pourrais embrasser cette religion. Vous savez, c'est ce qui s'est passé beaucoup plus tard, au XVIe siècle. Que s'est-il passé? Quand les jésuites sont arrivés en Chine, comment ont-ils convaincu l'empereur qui a failli se convertir à ce moment-là? En apportant des horloges et en montrant que la science de l'Occident était supérieure à ce moment-là à la science chinoise. Le fait de choisir une religion, non pas selon un acte de foi, mais parce qu'elle nous semble, en quelque sorte, par rapport aux forces magiques ou même aux forces concrètes qu'elles semblent supérieures, était tout à fait inscrit dans la mentalité de cette époque, ce qui n'est plus inscrit dans notre mentalité à nous.
Kubilai est surtout tourné vers le lamaïsme tibétain.
Donc ça veut dire que Kubilai n'a pas vraiment l'intention de changer de religion?
Non, pas du tout.
Alors pourquoi demande-t-il à recevoir 100 catholiques?
C'est une question très intéressante, très juste, mais je vais répondre sans difficulté. Pour avoir en sus de la protection des prêtres bouddhistes et des lamas tibétains, la protection des prêtres chrétiens. Aucune religion n'est inutile à un souverain qui a conquis son empire par la force et qui souhaite le préserver.
Donc le père et l'oncle reviennent à ce moment-là à Venise. Marco Polo, qui a 16 ans, croyait, était persuadé que son père est mort. Donc voilà, il était orphelin. Maintenant, soudain, son père arrive. Le père ne savait pas qu'il avait un fils. Marco Polo imaginait que son père était mort. Et c'est à partir de ce moment-là que Marco va y aller.
Et donc, les Polos vont chercher à rencontrer le pape, mais il y a une vacance du pouvoir papal. Le conclave de Viterbe ne réussit pas à élire un pape depuis plusieurs années. Ils vont attendre 2 ans et puis ils vont repartir en ayant échoué à leur mission, mais pour tenir leur parole au grand camp, de revenir lui apporter ses lettres. Et bon, ils vont avoir in extremis une lettre du pape et donc ils repartent en 1261.
Et puis ils ont continué leur route, ils sont partis en Arménie. À ce moment-là, nouvelle, mais ils ne savaient pas, un nouveau souverain pontife est élu. Il prend le nom de Grégoire X. Ce pape, ce nouveau pape, avant de partir vers l'Italie, envoie des messagers en Arménie, dardard, et avec demande à la famille Polo de revenir vers lui. Le souverain d'Arménie met une galère, comme on disait alors, à leur disposition.
Un bateau.
Oui, pour aller plus vite. Nous disons galère aujourd'hui. C'était des navires à rames qui avançaient assez vite. Et ils reviennent. Et nous savons exactement quand le souverain pontife est parti vers Rome, à la mi-novembre 1271. Donc, la famille Polo est revenue. On leur a donné des lettres, quelques présents sans doute.
À destination de Kubilai.
Oui, pour le souverain de cet immense pays. Et deux hommes de Dieu qui les accompagnaient. Donc nous savons exactement à quel moment de l'histoire, parce que très souvent nous ne savons pas à quel moment tel voyageur est parti.
Alors il y a aussi cette impression que finalement les Polos, qui sont des marchands vénitiens, côtoient comme ça, sur simple demande, tel empereur, tel pape. On a du mal à se rendre compte, en fin de compte, du statut social un petit peu qu'avaient ces membres de la famille Polo.
Vous savez, ceux qui formaient, je le mets entre guillemets, ce qu'on appelle une élite, étaient extrêmement peu nombreux à cette époque-là. Et quand un marchand important arrive au Proche-Orient, dans les terres que l'Occident chrétien possédait encore, c'est un phénomène. En plus, ils arrivent, très probablement, avec des bateaux, des serviteurs, des présents. Donc, les portes sont ouvertes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine aujourd'hui où pour rencontrer un ministre, il faut parfois attendre un mois. Non. Et encore plus, d'ailleurs, quand ils traversent la Perse ou quand ils arrivent au bout du monde. Quand ils arrivent au bout du monde, trois marchands de Venise qui arrivent à la cour de Kubilai, tapis rouge, on n'en a jamais vu. Donc, tapis rouge.
On n'a aucun détail, figurez-vous, dans le livre même, sur les moyens de locomotion empruntés.
On pense qu'il faisait 40 km par jour.
Oui, et le verbe qui est employé, c'est chevaucher, mais enfin, c'est chevauchière, hein, ce qui veut dire en fait cheminer, hein, plutôt que chevaucher. Donc, il cheminait sans doute en grande partie à pied, à côté des bêtes qu'il ne fallait pas épuiser, qui étaient soumises à dure épreuve. Et oui, 40 km, c'est déjà une grande, grande distance. C'est de cet ordre-là. Et le relief, les accidents du relief, le climat peuvent faire baisser cette distance, hein, évidemment. Je crois que l'ensemble des pistes caravanières qu'ils vont parcourir fait 12 000 km. Donc, ils vont mettre 2 ans et demi pour parcourir cette distance, ce qui est assez extraordinaire.
Donc, les deux polos qui ont entre-temps récupéré un fils, hein, de manière presque inattendue, retourne donc à la cour de Kubilaï, donc c'est encore 4 années d'un voyage extrêmement dangereux. Et là, les mains vides alors, Olivier Germain-Thomas.
Les mains vides par rapport à ce qu'avait demandé Kubilaï. Donc ils ont quand même l'huile du Saint-Sépulcre. En ce qui concerne les lettrés et les savants, les mains vides. Et l'hypothèse que je lance, c'est que, mais ce n'est qu'une hypothèse, hein, je n'engage que moi, c'est que si le père de Marco Polo a dit à l'empereur « C'est mon fils, il sera votre serviteur », je me demande si ce n'est pas une sorte de compensation. Je ne suis pas arrivé avec ce que vous m'avez demandé, mais voici quelqu'un qui connaît votre empire, beaucoup mieux que Kubilaï. Kubilaï ne se déplaçait pas beaucoup autour de Pékin. Il ne connaissait pas vraiment son empire. Marco Polo, grâce à ce voyage et ensuite aux autres voyages, va petit à petit connaître beaucoup mieux l'empire que l'empereur lui-même.
Alors, il y a cette vision extraordinaire, Olivier Germain-Thomas, d'une hypothèse qui ne s'est pas réalisée. Grégoire X envoie les 100 missionnaires et là, la Chine devient chrétienne. Vous pensez qu'on est passé là, à côté d'un bouleversement très important de l'histoire?
Non, la Chine chrétienne, je n'y crois pas. Mais les Mongols, pourquoi pas? Les Mongols avaient profondément, comme ils l'ont encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que maintenant ils ont adopté le bouddhisme tibétain, les Mongols ont un très grand sens du sacré, et pourquoi pas? Ça, pourquoi pas du côté des Mongols? Du côté des Chinois, non. Les Chinois avaient très solidement la religion de base, celle qui est en train de renaître en Chine aujourd'hui, qui est le confucianisme. Ils avaient un système de pensée qui est un des plus subtils du monde, qui est celui du taoïsme. Ils avaient reçu un bouddhisme de l'Inde qu'ils avaient entièrement transformé. Donc je crois qu'ils avaient des assises, et qu'ils ont encore des assises religieuses tellement solides qu'on n'aurait pas pu les ébranler. Et d'ailleurs, les Chinois n'aiment pas ce qui vient d'étranger. La seule religion qu'ils ont acceptée, c'est le bouddhisme qu'ils ont entièrement transformé.
Est-ce qu'il y avait aussi, dans la démarche des frères Polo, l'idée d'un prosélytisme, l'envie de convaincre ou de montrer la religion chrétienne?
Je ne le pense pas. Très souvent, Marco Polo montre que pour lui, la seule religion qui dit la vérité est la religion chrétienne. Ce qui était une évidence à l'époque. Mais à aucun moment, on le voit essayer de convertir. À aucun moment. Je crois qu'il prend les choses comme elles sont. Nous avons la vérité, nous avons cette chance. Les autres se trompent. On n'y peut rien, tel que nous sommes. Nous ne sommes pas prêtres, nous ne sommes pas les gouvernants de l'Occident.
Les croyances religieuses, il ne s'en soucie pas. Ce n'est pas son monde à lui.
Il l'indique, tout simplement.
Non, mais il appelle tout cela des idolâtres. Alors, il ne faut pas essayer de trouver des informations sur le confucianisme, sur le taoïsme, sur le bouddhisme surtout, qui était très important en Chine. Nous n'avons rien.
Et pour quelle raison, selon vous? Parce qu'il était tellement chrétien qu'au fond, il ne s'intéressait pas aux autres cultes?
Né dans le christianisme, il est resté chrétien pendant 16 ans sans prêtre et sans cérémonie religieuse. Mais à certains moments, nous le voyons reparaître sa croyance. Il dit là, ce sont des démons qui parlent par ces personnages ou qui aident les chamans qui entouraient Kubilai Khan à Chengdu et qui ont le pouvoir, nous dit-il, d'arrêter les vents, d'arrêter la pluie, de faire voler des coupes pleines à travers la salle des festins. Alors là, il dit, ce sont des diables qui les aident. De même pour la scène. de chamanisme. Il parle aussi de diable, c'est les diables qui s'expriment. Donc là, il y a une réaction chrétienne et au fond, presque d'un homme d'église.
Mais, disons, la question religieuse n'est pas la question centrale pour lui. La question humaine, oui, est importante. Les mœurs des autres l'intéressent. La question commerçante est absolument fondamentale, puisqu'à chaque fois qu'il pénètre dans une ville, il parle de la production de la ville, la taille de la ville, la richesse de la ville, etc. La question religieuse, la question philosophique, en fin de compte, pourquoi toutes ces cultures, là, ce sont des questions que Marco Polo ne se pose pas.
C'est pas un grand intellectuel, Marco Polo.
Il n'est pas curieux de ces domaines-là. Il est resté très profondément vénitien.
De manière très étonnante, si vous voulez, par rapport à toutes les coutumes qu'il réprouve hein, de manière certaine concernant l'hindouisme et le bouddhisme, il ne porte pas de jugement de valeur. Je nuance tout de suite. Il ne porte pas de. On a l'impression qu'il les accepte. Par exemple. Alors, quand il y a des malades, je veux dire des malades en danger de mort, ils vont chercher leur magicien et ils leur demandent si le malade guérira ou non. Si le magicien dit qu'il guérira de sa maladie, on le laisse jusqu'à la date où on a dit qu'il guérira. S'il doit mourir suivant la prédiction, on fait venir des hommes qui ont été désignés pour mettre à mort les malades dont les magiciens ont dit qu'ils mourront. Ils viennent au malade et lui mettent tant de draps sur la bouche qu'il l'étouffe. Quand il est mort, on le fait cuire, tous les parents du mort se réunissent et le mangent. J'ajoute qu'ils en sucent si bien les os qu'il n'en reste pas trace de moelle ou de graisse dedans. Car ils disent que s'il restait quelque chose dans les os, cette chose ferait des vers. Les vers mourraient faute de nourriture et ils disent que l'âme du mort porterait le poids de la mort de ses vers. C'est pourquoi ils mangent tout. Quand ils ont fini de manger, ils réunissent les os, les mettent dans de beaux coffrets, ils les portent et les pendent dans des cavernes de la montagne, dans des endroits où ni bête ni rien ne peut les atteindre. Et sachez que s'il vient à passer un homme qui n'est pas de leur pays et qui ne peut payer de rançon, ils le tuent et le mangent immédiatement. C'est une coutume vraiment ignoble et dangereuse. On sait qu'il y a eu des peuples anthropophages et même encore dans une date récente dans certaines de ces parties du monde. Et on sait aussi que l'anthropophagie, entre guillemets, positive hein, pour s'acquérir les forces ou d'un guerrier ou d'un parent ou d'un ennemi s'explique très bien par le fait de vouloir acquérir hein, un peu de pouvoir de cette personne que l'on mange. Mais on sait aussi que ça porte sur de toutes petites quantités normalement. Donc lui, insiste sur le fait que donc ils mangent intégralement leur mort et il le justifie non pas en disant que enfin je ne dis pas qu'il va l'accepter mais
non, ça
au
le
moins,
choque quand même
voilà mais il explique que s'il ne mangeait pas tout alors des vers dévoreraient le reste du cadavre et une fois qu'ils auraient tout mangé, ils seraient appelés à disparaître, ils mourraient et le mort serait alors responsable de leur mort.
Il y a des notations sur les mœurs des gens rencontrés. Ils ne s'occupent pas seulement des produits du sol, des tissus, des étoffes luxueuses, du brocart, des saphirs, des rubis. Et ils notent tout cela, puisque c'était les biens les plus faciles à transporter dans la doublure des vêtements. Et que parfois, lorsque les marchands étaient attaqués par des pirates, ils avalaient les pierres précieuses. Mais vous le savez, Marco Polo le dit à un moment, les pirates avaient une herbe qu'ils faisaient avaler, une plante qu'ils faisaient avaler aux marchands, et ceux-ci étaient obligés de restituer sur le sol le produit qu'ils avaient avalé. Et donc les pirates s'en emparaient. Il est sans le savoir un ethnologue. Et d'ailleurs, les grands spécialistes de l'Asie, Sir Orell Stein, le grand connaisseur de la Chine de l'Ouest, qui a fouillé à Rotan et à Dunhuang aussi, Paul Pelliot, le très grand français qui connaissait toutes les langues de l'Europe et presque toutes celles de l'Asie, avait Marco Polo avec lui et ont commenté Marco Polo.
Qu'est-ce qu'on a appris grâce à Marco Polo? Qu'est-ce que les ethnologues savent ou les historiens des mœurs, des coutumes de l'époque?
Une foule de choses sur les Mongols, tout particulièrement, parce que le monde chinois n'est pas celui que connaît Marco Polo. Je considère qu'il ne devait pas connaître le chinois. Alors, on lui a reproché.
C'est dans cette extrême partie du monde que l'on situe en général dans les encyclopédies jusque-là les peuples monstrueux. Et c'est de très longue date depuis l'Antiquité gréco-latine. Les encyclopédistes du Moyen-Âge encore en parlent et on représente notamment là les blémis, ces peuples qui n'ont pas de tête, la tête est sur le thorax, les scyapodes qui ont un pied immense qui leur sert d'ombrelle pour les protéger du soleil, leur faire de l'ombre, les cynocéphales qui sont des êtres à tête de chien. Marco Polo ne va parler que des cynocéphales dans une île de l'Indonésie et encore il va les localiser dans les montagnes et dire qu'il ne les a pas vus, mais qu'on lui a dit que ces hommes ont des têtes comme des têtes de chiens. Donc il modalise et il dit qu'il ne les a pas vus. Et donc là déjà, par rapport à un des grands points de la chrétienté aussi, puisque la question avait été abordée des années auparavant, des siècles auparavant par saint Augustin, il donne son avis sur ce point. Et puis ensuite, pour démystifier un certain nombre de choses, c'est très récurrent. Par exemple, l'ambre, dont on pensait depuis l'Antiquité gréco-latine que c'était une substance qui naissait de l'écume de la mer, de manière très jolie, eh bien, il dit que cela vient en fait des entrailles, alors des baleines et des cachalots. Là, il se trompe un petit peu, puisque ça ne vient que des cachalots. Mais ça veut dire qu'il sait voir, il sait analyser, il sait écouter et il sait se faire son jugement. L'amiante, on disait que les vêtements en amiante étaient des vêtements faits en peau de salamandre, puisque la salamandre était un animal qui était réputé pouvoir vivre dans le feu. Eh bien, il dit que pas du tout. L'amiante, en fait, est issu d'un minerai que l'on traite d'une certaine manière et qui donne, après avoir été brûlé, des sortes de fils, comme de la laine, dit-il, que l'on va traiter, dont on pourra faire des tissus. Il y a dans cette île une espèce de singes très petits qui ont le visage comme celui des hommes. On les attrape, on leur arrache tous les poils, sauf quelques-uns qu'on leur laisse au menton et au pénis. Puis on les met dans des boîtes, on les fait sécher et on les prépare avec du safran et d'autres choses de sorte qu'ils ressemblent à des hommes. Mais ils n'en sont pas, car nulle part en Inde ou ailleurs, on n'a jamais vu d'homme aussi sauvage.
Alors il y a tout un tas de légendes que Marco Polo rapporte. Il y a par exemple cette légende de la montagne qui se déplace.
Oui, en Perse, oui, près de Bagdad. Oui, c'est une croyance qui se trouve aussi dans quelques textes arabes et qui est évidemment considérée comme un phénomène d'illusion, une croyance.
Mais lui, il y croit profondément.
Oui. Il y croit. Et il n'a jamais été à Bagdad. On le lui a dit. Il rapporte des propos extraordinaires, des mirabilia dont on lui parle. Cela se produit parfois dans son récit. Il y a beaucoup de choses vues, du vécu, des découvertes extraordinaires. Et puis, il y a aussi des phénomènes, par exemple, les hommes à tête de chien, ou les griffons à Madagascar, où il n'est pas allé.
Donc, vous pensez qu'il rapporte simplement ou qu'il cautionne, au fond, ce qu'il a entendu et qu'il le rapporte comme une chose réelle, vraie.
Là, vous n'êtes pas gentil en disant cautionne. Non, il rapporte. Son livre est intitulé parfois le livre des merveilles. C'est un besoin de toutes les générations de trouver des récits extraordinaires, même en notre temps, pourtant rationaliste. Alors, il est normal qu'il y ait des mirabilia dans cet ouvrage. Cela fait partie des besoins de l'horizon d'attente, comme on dit parfois.
Ça veut dire qu'il fait aussi œuvre littéraire et qu'il souhaite raconter des choses qui font rêver le lecteur ?
Des choses qui plaisent. Et puis, il a un écrivain à son service, rusticien de Pise, Rustichello da Pise. Et l'un et l'autre trouvent intéressant de ne pas se limiter au ras du sol et d'apporter un supplément de poésie et de rêve au récit.
Six devises de l'aspect du grand Khan. Le grand seigneur des seigneurs, qui est appelé Kublai Khan, est tel. Il est de belle taille, ni petit ni grand, mais de taille moyenne. Sa charnure est bien répartie, ni trop grasse ni trop maigre. Il est très bien constitué de tous ses membres. Il a son visage blanc et vermeil comme rose, ce qui lui donne un aspect très plaisant, les yeux noirs, est beau, le nez bien fait et bien séant. Il a quatre femmes, qu'il tient toujours pour ses véritables épouses, et le fils aîné qu'il en a doit être de plein droit seigneur de tout l'empire quand le grand Khan, son père, mourra. Elles sont appelées impératrices, mais aussi chacune par son nom. Et chacune de ces quatre dames tient une très belle cour royale dans son propre palais. Aucune d'elles n'a moins de 300 demoiselles choisies pour leur gentillesse et leur beauté. Elles ont de nombreux valets, eunuques et maints hommes et femmes, si bien que chacune de ces dames a, dans sa cour, au moins 10 000 personnes. Il exagère.
Olivier Germain-Thomas, ce qui frappe les polos à la cour de Kubilai, et notamment Marco Polo, puisque lui, il n'y est pas allé une première fois, comme son oncle et son père, c'est le faste avant tout.
Le faste, la richesse, le gâchis, les repas, les brocarts, l'or, les diamants, les femmes, Kubilai était un grand amateur, le vin, enfin une espèce d'exubérance dans la vie. Venise était une ville riche, mais une ville qui se tenait, qui était... On ne déborde pas trop, on est quand même commerçant, c'est ce qui est un sou, malgré tout. Tandis que là, on entre un peu dans le cliché d'une espèce d'Orient où tout déborde.
Tout est plus grand, tout est plus beau, tout est plus... c'est plus et c'est beaucoup plus. C'est-à-dire, on est dans une surenchère qualitative et quantitative, avec des palais absolument immenses, avec de multiples enceintes, de multiples jardins, de multiples serviteurs. On est dans une inflation qui, d'emblée aussi, correspond au fantasme que l'on avait sur cet Orient à l'époque médiévale.
Alors les fêtes du Grand Khan, somptueuses, avec le souverain installé sur une éminence, sur un trône dominant tous, et puis au-dessous de lui, un peu plus bas, son fils, sa femme, et puis au-dessous des mandarins, d'autres personnages, toujours tournés vers le sud, région favorable. Ça s'est resté comme cela pendant toutes les dynasties chinoises. Le souverain regarde le sud. Il décrit les chasses du souverain, avec des animaux, des sortes de guépards sur le dos de la monture, etc.
Parce que Kubilai chasse énormément, il fait à peu près que ça d'ailleurs.
Oui, c'est votre impression au vu de Marco Polo. Non mais il avait des conseillers, il avait même des conseillers chinois, il s'occupait de régir l'Empire, c'était son intérêt.
« au plan de l'organisation, il y a une centralisation, par exemple, qui est extraordinaire, qui commence à se mettre en place, par exemple, en France. Alors, en Italie, ce n'est pas le cas du tout, hein, puisque les princes, il n'y a pas d'unité qui s'est encore faite du tout. Venise est une petite cité, une cité puissante, certes, mais indépendante. En revanche, là, ils vont voir un pays qui est gigantesque et ils en ont pris la mesure en l'arpentant presque au sens propre pour y venir et qui est extrêmement bien organisé. Alors, par exemple, Marco Polo décrit le système pour faire connaître les nouvelles impériales par donc des messageries postales qui sont incroyables et qui font que, en principe, les nouvelles sont diffusées très très rapidement.
Donc, on a le droit, quand on est un messager, de prendre n'importe quel cheval et puis de le laisser à un relais de poste.
Voilà, il y a des relais de poste qui sont organisés de point en point et c'est donc avec des ramifications qui font qu'on va des grandes routes à des routes moyennes, à des petites routes et qu'on pense que tout l'espace sera ainsi couvert. Il raconte aussi cet émerveillement devant le papier-monnaie hein, qu'ils font à partir de feuilles de mûrier, plus précisément d'ailleurs d'une partie de l'aubier. Et donc sur ces pages que l'on découpe à la taille des billets et qui font que le grand khan Kubilai institue cette monnaie comme obligatoire pour tous et il va garder les réserves d'or. Hein, et tout le monde se servira de papier-monnaie. C'est quand même aussi une organisation du politique, du pouvoir économique, financière qui est très très en avance sur ce que l'on connaît en Occident.
Et le pétrole ?
Il en parle juste un petit peu sur le chemin de l'allée. Ils ont vu de l'eau qui brûle, hein, des cheminées avec un liquide hein, qui brûle. Mais dont il ne voit pas l'utilité à cette époque-là. C'est plus une curiosité. Ce n'est pas une énergie pour eux.
Donc, Olivier Germain-Thomas, les polos deviennent des grands commis de l'État. Et on dit que 2 ou 3 ans après son arrivée, Marco Polo se voit remettre un office, une ambassade, c'est ça ?
Oui, Marco Polo a été incontestablement un informateur pour l'empereur, dans la mesure où il est malin, où il connaît les langues, il est courageux, il va partout. Et l'empereur était extrêmement méfiant à l'égard des Mongols parce qu'il ne les trouvait pas assez raffinés. Et encore plus méfiant à l'égard des Chinois qu'il avait soumis, puisque l'Empire chinois lui est soumis, mais les Chinois le détestaient. Et d'ailleurs, quelques générations plus tard, les Chinois chasseront les Mongols et reprendront leur souveraineté. Donc il se méfiait de beaucoup de monde et il avait donc très confiance en Marco Polo. Donc je pense que les informations que Marco Polo a pu lui apporter étaient tout à fait fiables et que c'est pour cela qu'il lui a redonné des missions.
Et donc on dit, il dit, qu'il aurait dirigé une province.
Oui, alors ça, d'après tous les historiens, c'est faux. En revanche, on est quasi sûr maintenant qu'il s'est occupé du commerce du sel dans certaines régions de la Chine du Sud. Et le commerce du sel, ça n'est pas rien. C'est un commerce extrêmement florissant. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui aurait en quelque sorte le monopole de s'occuper du pétrole, vous voyez. C'est un rôle commerçant important. Quant à administrer une province, on aurait retrouvé très probablement des traces dans les archives. On ne les trouve pas.
Mais on perd de vue au fur et à mesure, enfin on perd de vue même extrêmement vite, qu'ils sont des marchands. Est-ce qu'ils continuent de commercer tout ce temps-là ou est-ce que finalement le commerce c'est quelque chose qui va disparaître très rapidement au fond de la vie des polos ?
Le regard reste le regard d'un commerçant. Est-ce qu'ils accomplissent eux-mêmes pour remplir les caisses, car ils sont venus avec beaucoup d'argent, même si une partie de cet argent leur a été volée. Est-ce qu'eux-mêmes vont faire du commerce dans cet immense empire ? Je n'en sais rien, il n'en est pas question. Ça ne me semble pas très compatible avec l'idée du service de l'État qui était celui des polos. Hein. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, ils avaient suffisamment un bon coup d'œil pour pouvoir acheter quelque part quelque chose et le revendre ailleurs. Pourquoi pas ?
dans les années 1280, Olivier Germain Thomas, les Polos, souhaitent rentrer chez eux, ils souhaitent quitter Kubilai Khan. Pour quelles raisons ?
Ils ont envie de rentrer à Venise, ils ont de l'argent. Donc est-ce que cet argent est venu du commerce ou bien de cadeaux donnés par l'empereur ? On n'en sait rien. Et c'est quand on est vénitien, on aime cette ville, ils ont envie de la revoir, ils ont envie de se retrouver chez eux. Et l'empereur dit non. Il y a plusieurs reprises, c'est surtout le père qui va s'incliner devant l'empereur. « Majesté, nous voulons rentrer. » « Non, non, non. » Bon, et on ne quitte pas l'empire. Hein. S'il l'avait quitté sans l'accord de Kubilai, la tête ne serait pas restée longtemps sur le tronc. Mais alors, à ce moment-là, le destin joue. Il faut raconter un peu l'histoire. Dans l'empire de Kubilai Khan, il y avait la Perse. La Perse était dirigée par ce qu'on appelle un Ilkhan, qui est une sorte de roi par rapport à l'empereur, disons. Cet Ilkhan avait une épouse qui venait d'une ethnie très particulière de la Chine. Cette épouse, au moment de mourir, fait prendre l'engagement à son mari en Perse que s'il reprend une épouse, cette épouse vienne de cette même ethnie, de cette même tribu. Des cavaliers partent de la Perse pour aller à la cour de Kublai Khan et donner l'information, aller trouver quelqu'un pour celui qui est le roi dépendant de l'empereur, le roi de Perse. On va trouver une jeune fille, une charmante petite jeune fille, enfin on imagine, charmante, l'épithète est de moi, jeune fille, on lui dit tu vas aller épouser Ilkhan qui est en Perse. Elle n'a pas à discuter. Des cavaliers partent avec cette petite princesse pour à nouveau traverser, vous imaginez. Hein,
plusieurs années.
On est à Pékin et on veut aller en Perse. Et puis, à ce moment-là, il y a des révoltes dans l'Empire. Ils font demi-tour. Mais comme l'empereur avait pris l'engagement d'envoyer cette jeune fille, il est bien ennuyé. Marco Polo entend cette histoire. Et lui avait ouvert la voie maritime pour aller en Perse en longeant les côtes de l'Inde.
Donc il connaît bien.
Il l'avait déjà pratiqué. C'est un long trajet et il dit à l'empereur, « Majesté, vous nous confiez cette petite princesse, avec des bateaux bien sûr, et nous l'emmenons jusqu'en Perse. » Et l'empereur, vieillissant, finit par accepter. Donc voilà, les trois polos, avec plusieurs navires, des soldats pour garder cette petite princesse et la petite princesse, qui partent pour arriver en Perse, plusieurs années également de voyage. Et quand ils arrivent, pardonnez-moi de rire, mais quand même, quand ils arrivent, l'Ilkhan est mort. Alors que fait-on ? Eh bien, on la donne à son fils.
Est-ce qu'on a une idée de comment se passe ce retour et au fond, pourquoi est-ce qu'ils ne repartiront plus et quelle va être leur vie ensuite ?
Alors, pourquoi ils ne repartiront plus ? Le père et l'oncle sont quand même vieux. Marco Polo ne repartira pas là-bas parce qu'il va se marier, avoir des enfants, on pense après 1298. En tout cas, il a sans doute refait des voyages puisque rentré à Venise en 1295, il est fait prisonnier sur un navire. Alors pour quelle raison ? C'est vrai qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il était quand même sur un navire, donc sans doute de nouveau entre Constantinople par exemple et Venise, entre un comptoir là-bas et leur maison à Venise. On ne sait pas du tout, on n'a pas idée de ce qu'ils vont devenir. Je ne dis pas qu'on perd la trace, ce n'est pas vrai, hein, puisque Marco Polo va rédiger son testament, notamment juste avant sa mort.
Il mourra d'ailleurs assez âgé.
Oui, 1324, donc c'est pas mal, 70 ans hein, pour un homme de l'époque, ça entérine hein, le fait que, évidemment, pour avoir connu et vécu ce qu'il a connu dans ses voyages, il avait une santé très bonne, très robuste. Voilà, on a sa trace à ce moment-là de 1324, mais entre deux, non, on n'a pas grand-chose.
On imagine qu'à son retour, il a reçu ses amis, et pourquoi pas d'ailleurs les pouvoirs politiques de la ville, pour raconter tout ce qu'il a vu. Le livre, lui, tel qu'on le connaît, a été rédigé après. Il y aurait eu, d'après des témoignages qui datent du Moyen-Âge, un exemplaire qui aurait été mis à la disposition des Vénitiens sur le pont du Rialto. Donc j'imagine que cet exemplaire n'était pas l'exemplaire en ancien français. C'était un exemplaire probablement en vénitien. Et j'imagine qu'ils allaient le feuilleter pour les récits et les aventures, mais aussi pour les informations précises de cette cité qui était obsédée par le commerce et qui devait toute sa richesse au commerce. Et c'est petit à petit, à travers différentes copies, des copies qu'il y a eu en catalan, en castillan, en portugais, une copie un petit peu expurgée d'ailleurs en latin, parce qu'elle a été faite par des hommes d'église, donc quand il y a des rencontres galantes, et il y en a d'assez charmantes, et ben, tout cela avait été évacué dans la version latine. Et donc, petit à petit, la réputation est venue, mais il faut attendre un siècle avant que le livre obtienne un succès considérable.
C'était Une vie, une œuvre, consacrée aujourd'hui à Marco Polo, 1254-1324, avec Olivier Germain Thomas, auteur d'une biographie de Marco Polo disponible chez Folio, Philippe Ménard, professeur émérite à la Sorbonne en littérature médiévale, Daniel Jamraoul, chercheuse en langue et en littérature médiévale à l'Université de Bordeaux, et l'écrivain Pierre Ducrozet. La prise de son en extérieur a été assurée par Jean-Marie Porcher. Au mixage, c'était Claire Levasseur et l'émission est de Mathieu Garrigou-Lagrange et Anne Sécheret.
Il y a une acceptation joyeuse de ce qui peut arriver. Et d'ailleurs, d'où ce terme qui est si important dans le christianisme de l'époque, c'est le terme de providence. Je pense que si les polos n'avaient pas été persuadés qu'ils étaient protégés par des forces supérieures, ils n'auraient pas pu arriver jusqu'au bout. Il faut une sorte d'immense naïveté, un cœur extrêmement ouvert pour se dire « Je vais traverser les montagnes les plus hautes du monde, je vais traverser les déserts les plus chauds de la terre, je vais être attaqué par des bandits, ils l'ont été à plusieurs reprises, et néanmoins, je m'en sortirai parce que la Providence le veut. » C'est quelque chose que nous avons perdu, en tout cas la majorité d'entre nous, il y a encore quelques êtres humains qui vivent de cette manière, nous l'avons perdu et le fait de vivre en quelque sorte avec des gens du XIIIe siècle pendant un certain temps nous permet de redécouvrir une autre conception du temps, comme vous le dites, et même de l'espace d'ailleurs, puisque cet espace était inconnu devant eux.
Demain, l'Esprit des Voyages soufflera encore sur vos Une vie, une œuvre de l'été avec une émission consacrée à Hugo Pratt. Et c'en sera fini de nos rediffusions, mais pas d'inquiétude, plein de nouvelles choses vous attendent à la rentrée, notamment le livre des 30 ans de l'émission qui paraîtra en octobre chez Albin Michel. Encore un peu de patience.